Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune. Bienvenue à bord de votre émission Libre Propos, émission hebdomadaire qui vous permet d'entendre la parole de l'évêque sur des sujets d'église, sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va voir un peu, on va dire les deux, on va parler du denier de l'église parce que c'est en ce moment même la campagne printanière du denier de l'église. Et puis on parlera bien évidemment du mercredi des cendres qui marque l'entrée en carême, le carême qui sera vraiment le sujet de notre libre propos de la semaine prochaine. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Je suis un peu long dans mon introduction.
Bonjour Christophe. Non, on a parlé du printemps parce qu'effectivement, après ce mois de février incroyable, jusqu'à 27 degrés sur la côte basque, incroyable. Donc effectivement, c'est une campagne de printemps qui est lancée dès maintenant.
Le denier de l'Église, Monseigneur, c'est très important, le denier, car l'Église, évidemment, ne vit pas de l'air du temps. Elle a des dépenses conséquentes que vous allez nous détailler au cours de cette émission. Mais peut-être qu'il convient de rappeler d'abord à nos auditeurs l'histoire assez récente. Moi, j'ai découvert, en allant fouiller sur Internet, l'histoire assez récente du denier qui a été mis en place à la fin du Concordat, je crois, ça.
En fait, l'Église n'est plus une Église financée par l'État. Il y a des pays où, par exemple, les citoyens ont un impôt dit cultuel, donc ils l'adressent à l'Église qui leur convient, et l'État reverse à ces églises donc cette part de l'impôt. En France, ce n'est plus le cas, sauf en Alsace-Lorraine, où, quand il y a eu cette loi de séparation en 1905, c'était un territoire allemand. Et donc, les lois de 1905 sont appliquées différemment là-bas. Les prêtres, par exemple, sont rémunérés par l'État en Alsace-Lorraine. C'est l'exception et qui demeure aujourd'hui, c'est le souhait des gens là-bas. Nous, nous devons financer l'Église tout. Tout, ça veut dire que l'Église n'a aucune subvention de personne, ni de l'État, ni de la ville, ni du Vatican.
Ni du Vatican, ni de personne.
Non, c'est entièrement la générosité de nos fidèles ici en Eure-et-Loir et parfois des gens qui ont une maison ici qui viennent aussi y apporter leur contribution. Voilà, c'est au fond, c'est assez bien. Moi, j'aime bien cette formule-là. Elle nous rend responsables.
Oui. Alors, elle nous rend responsables tous, d'ailleurs, évidemment, y compris les donateurs. On va parler des dépenses de l'Église en Eure-et-Loir parce que elles sont importantes. Elles sont diverses, variées et importantes.
Bah, c'est-à-dire que si cet État nous rend responsables, nous ne sommes pas riches. Hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Vous savez, on a 70 prêtres dans le diocèse, par exemple. Hein. Alors, 45 sont en dessous de la retraite des prêtres, donc sont vraiment sur le terrain, même si quelques prêtres âgés continuent aussi à servir, à aider. On a aussi des dizaines de salariés qui aident des très nombreux bénévoles pour le catéchisme, pour l'animation pastorale, pour l'animation des églises, des messes, la liturgie, etc. Donc il y a des salariés qui travaillent dans les paroisses pour tout ça. Souvent, ils sont, par exemple, à mi-temps, ça arrive aussi, ou bien il faut un peu de secrétariat. Il y a aussi des salariés pour l'équipe diocésaine qui coordonne un travail au niveau du département, mais qui sert les paroisses ultimement. C'est-à-dire que tout ce travail sert le terrain. C'est important de le rappeler.
Oui, quand on parle de l'Église, c'est l'Église dans son entièreté, les chrétiens.
Les chrétiens catholiques qui sont autour de moi. Et bien sûr, les salaires, c'est un coût. Les charges sociales sont les mêmes qu'en entreprise. Elles sont élevées. Puis ensuite, il y a tous les frais inhérents au bâtiment, à l'immobilier, au déplacement, etc. Donc effectivement, c'est un gros budget. Le budget de les charges d'exploitation, c'est environ 4,5 millions d'euros par an. Donc c'est conséquent, oui.
Ouais. Alors, il y a plusieurs sources de financement de l'Église, bien sûr. Il y a les quêtes et les offrandes durant les cérémonies, mais il y a quand même un petit peu moins de monde dans les églises qu'il y a 50 ans. Donc là encore, ce sont des recettes...
Oui, il y a moins de monde dans les églises qu'il y a 50 ans, c'est vrai. À la fois, moi, je vois que les chrétiens sont conscients que c'est leur responsabilité. Donc la recette numéro une, c'est assurément le denier de l'Église. C'est donc en gros 25% des recettes. Après, c'est les quêtes qui sont lors des messes. Hein, voilà. Après, il y a d'autres recettes qui arrivent aussi, comme les cierges, par exemple, les offrandes de cierges. Ce qu'on appelle aussi le casuel, c'est un mot un peu curieux. Casuel, c'est un mot assez d'église. Ça veut dire c'est ce que par exemple, une famille va donner pour faire célébrer un mariage ou un baptême à sa paroisse. Alors, ça couvre en général l'entretien d'église, l'électricité, la préparation, enfin tout ce qu'on fait au fil de l'eau, on peut dire, au cours de l'année, et puis qui permet ce jour-là d'avoir une église accueillante, ouverte, quoi.
Alors, revenons au denier de l'Église. La campagne l'an dernier, la campagne 2018, a été difficile avec un manque à gagner de 30 000 euros sur le seul denier.
C'est-à-dire que le denier, l'an dernier, a dû rapporter, je crois, 1 150 000 euros. Donc ça peut paraître une belle somme, mais ça ne couvre pas du tout l'ensemble des frais de traitement, de salaire et de charges salariales. Donc, je crois que c'est même en gros 50%. Donc, on est en deçà de ce qu'il faudrait, parce que ce denier a comme objectif premier, justement, le traitement des prêtres et des laïcs. Donc, c'est une vraie question. 30 000, c'est une baisse. Mais grâce à Dieu, on a eu quand même, en fin d'année, un sursaut, malgré la situation un peu compliquée de la vie sociale avec... les troubles inhérents aux manifestations, l'inquiétude par rapport au prélèvement à la source, etc. Mais les gens se sont ultimement bien mobilisés, et vraiment je les remercie s'ils sont à l'écoute profondément de cela. C'est important que chaque... Alors c'est vrai que le message, c'est peut-être de dire qu'on ne donne pas, encore une fois, parce que le curé est sympa, parce que l'église est jolie, on donne parce qu'on est catholique. On est catholique, c'est... Oui, en Eure-et-Loire, je me disais, on est quand même 430 000 habitants, je pense. Donc, il y a au moins la moitié qui sont baptisés catholiques. Donc, si 200 et quelques mille baptisés donnaient quelque chose, vous voyez, parce qu'un jour ou l'autre, on fait appel à l'Église pour les funérailles d'un proche, parce qu'on a un baptême qu'on veut célébrer, même si on n'est pas des pratiquants réguliers, beaucoup de gens sont sensibles à ce qu'il y ait une Église qui accueille, qui s'occupe de quelques... Je pensais par exemple, je voyais la responsable de la pastorale de la santé. On a plus de 130 bénévoles qui vont en hôpitaux, en psychiatrie, en gériatrie, dans les EHPAD, chaque semaine, et qui s'occupent d'accompagner des gens qui sont vraiment en grande pauvreté. Tout ça, c'est permis parce que vous donnez, mes amis qui écoutez, quelque chose au denier.
Oui, cette dimension presque sociale de l'Église, il ne faut pas l'oublier, elle est importante.
Ah bah oui, moi je pense que... Vous savez, parfois je dis un peu en boutade, pardonnez-moi pour ceux qui vont écouter ça, mais je dis que nous les prêtres, on devrait être payés par la sécu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on apporte aux gens? Une écoute, souvent un bien-être. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais monsieur le curé, quand j'étais curé, ça m'a fait du bien de parler avec vous, vous m'avez encouragé. Ils repartent réconfortés. Cela contribue au mieux-être des gens qui sont en souffrance.
On peut donner à partir de combien, en fait?
Oh, pour le denier, on dit que, imaginez 2% de son revenu, c'est une valeur moyenne. Après, bien sûr, ça va dépendre du revenu. Ceux qui ont très peu, c'est difficile pour eux. Ceux qui en ont plus, je pense à des célibataires de 30 ans qui ont un beau métier, qui gagnent bien leur vie, ils peuvent donner plus que 2%, ils peuvent donner peut-être 5% et être généreux, quoi.
Oui. On peut donner toute l'année le denier, ou est-ce que c'est vraiment pendant une période déterminée?
Soit on donne par un don ponctuel annuel, mais vraiment l'idéal, c'est des versements mensuels, parce qu'on les met en place très facilement, on peut les modifier quand on veut, on va sur le site internet, on peut le mettre en place, et nous, ça assure un revenu régulier pour la trésorerie, et justement, tous ces frais qui sont importants, c'est une belle aide. Donc donnez, s'il vous plaît, donnez par versement automatique, c'est... le meilleur moyen, je pense.
Ouais, www.diocèsechartres.com.
Oui, après ça, on se laisse guider, donner à votre église. C'est assez simple, oui.
Merci, Monseigneur. Deuxième sujet, l'entrée en carême. C'est mercredi prochain et ce sera le fameux mercredi des cendres. Alors, les cendres, dont la symbolique remonte à l'Ancien Testament, on se recouvrait de cendres pour signifier à Dieu, finalement, son repentir. On regrettait ses fautes. C'est donc un signe de pénitence.
Oui, alors le carême, c'est oui, il y a une dimension de pénitence, mais avant tout, carême, c'est 40 jours, sans compter les dimanches qui sont des jours de résurrection, toujours. 40 jours, pourquoi? Pour être un peu associé à Jésus lui-même qui, au début de sa vie publique, va au désert et passe 40 jours dans le désert à jeûner, à prier le Père, Dieu le Père, à se préparer à sa mission. Et au fond, chaque année, nous, catholiques, nous prenons ce temps du carême pour être un peu comme allégé de ce qui nous encombre. Ça peut être la nourriture, le jeûne, peut-être d'activités qui ne sont pas forcément nécessaires, et du coup, avoir plus de temps pour la prière, pour Dieu, mais aussi pour ses proches, pour être avec les autres, quoi. Et puis, se dire aussi, j'ai quelques moyens, j'ai une vie qui est parfois quand même confortable. On a des jolies maisons, on a une voiture pour se déplacer. Eh bien, je peux quand même partager ce que j'ai. Donc, c'est vraiment d'abord ça. C'est donner son cœur à travers la prière, le partage et le jeûne.
Oui. Que se passe-t-il durant le mercredi des cendres, la cérémonie ?
Alors, c'est une célébration qui rassemble d'abord beaucoup de monde. Moi, j'étais très frappé quand j'étais curé de voir beaucoup de gens venir, et notamment la jeune génération. Beaucoup de jeunes adultes qui font un break, par exemple le midi dans le travail, et qui viennent à une messe. Donc la messe, on va relire principalement un très beau texte dans l'évangile de Saint Matthieu, où Jésus nous demande vraiment de nous mettre dans le secret du cœur. Vous voyez, l'idée, c'est pas d'avoir une attitude ostentatoire qui voudrait dire aux gens « nous sommes bien, nous sommes des gens bien, nous faisons ça, nous jeûnons, nous prions devant les autres ». Non, c'est vraiment... Jésus dit, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu partages, retire-toi dans ta chambre. Dieu le Père voit cela dans le secret. Donc, du coup, cette messe, on va rappeler ça et on va être marqué des cendres. En fait, les cendres sont faites à partir des rameaux de buis qu'on a reçus à la messe des rameaux l'année précédente et qu'on a gardé en général attachés à un crucifix chez soi, une croix. Et donc, on les ramène, on les brûle. On en fait descendre et le prêtre ou la personne qui va aider le prêtre, le ministre, va donner ses cendres, va les mettre sur le front en disant, il y a une parole un peu ancienne qui est un peu difficile et que j'utilise pas directement, mais qui a un sens quand même. Rappelez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez à la poussière.
L'Ecclésiaste.
Donc là, c'est un petit peu raide. Ça veut dire qu'au fond, nous venons de la terre, quoi, mais nous ne sommes pas grand-chose devant la majesté de Dieu. Bon, en même temps, on ne va pas retourner qu'à la poussière, on va un jour être dans la gloire de Dieu, donc cette dimension est plus positive, je pense. Maintenant, il y a une seconde formule que le célébrant dit, et que je prends personnellement, qui est « convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Donc, changez votre vie, enlevez le livret, le mauvais de votre vie et croyez à l'évangile de vie, quoi, et vivez-le aussi.
Ouais. Finalement, on nous invite à lutter contre notre ego qui est tellement prédominant aujourd'hui chez l'homme contemporain.
Bah, l'ego, c'est ce qui rejaillit en orgueil ou en égoïsme. Ouais. Et on dit que l'orgueil, c'est la source des péchés, la cause des péchés. Quand on est égoïste et orgueilleux, on finit par vivre que pour soi, quoi.
Ouais. Bon, Seigneur Christori, merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. On va parler du carême, bien évidemment. On entrera vraiment dans le carême la semaine prochaine.
Oui, parce que c'est différentes étapes. C'est très beau, le carême. On parlera des catéchumènes. C'est un temps très précieux pour eux. Ils préparent leur baptême.
Ouais. Merci beaucoup. Merci à Simon en régie technique. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.